Et le journal est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous. Le retour en France de 5 enfants de djihadistes partis ces dernières années en Syrie, des orphelins désormais âgés de 1 à 5 ans, parmi lesquels 3 frères. Ils sont arrivés aujourd'hui sur décision des autorités françaises, décision qui ne peut être qu'un premier pas d'après l'avocate Marie Dosé qui défend plusieurs femmes parties rejoindre l'organisation État islamique. En Nouvelle-Zélande, le choc après l'attaque de 2 mosquées de la ville de Christchurch, il y a 49 morts. Retour dans ce journal sur les motivations et sur le parcours du principal suspect, un homme australien âgé de 28 ans. Nous irons également dans ce journal en Algérie où la mobilisation contre le président Abdelaziz Bouteflika ne faiblit pas, vous l'entendrez. Nous écouterons les revendications des jeunes grévistes pour le climat qui étaient très nombreux à manifester à travers toute la France et d'ailleurs aussi au niveau mondial. Et puis, nous retrouverons l'enquête de cette édition sur l'optimisation et la fraude fiscale pour tous. Un an et demi après les Paradise Papers, on verra avec Abdelhak El Idrissi que ce genre de pratique s'est en quelque sorte démocratisé. 5 enfants français de djihadistes partis en Syrie, se retrouvant désormais orphelins, au moins de mères, ont été rapatriés aujourd'hui. Annonce faite dans la journée par le ministère des Affaires étrangères. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir.
Ces enfants, dont un est sérieusement blessé, ont entre 1 et 5 ans. Ils sont arrivés en France à la mi-journée. Ils ont été préalablement repérés par les autorités françaises qui, jusqu'à maintenant, excluaient totalement le moindre retour en France. Ils ont été choisis sur des critères très stricts et notamment parce que preuve est faite que leurs mères sont décédées.
Oui, en tout cas, c'est une précision qui a été donnée par le Quai d'Orsay tout à l'heure. Tous les enfants qui ont été rapatriés en tout début d'après-midi sont orphelins de mère au moins, et leur père est soit présumé mort, soit il a été incarcéré après une arrestation par les forces kurdes. Alors, vous l'avez dit, ces enfants sont 5 à avoir été rapatriés sur le sol français. Il y a 3 petits frères orphelins pour lesquels les grands-parents lançaient des appels désespérés depuis plusieurs semaines, et avec ces 3 petits orphelins, 2 fillettes qui n'ont pas de lien de parenté. Tous ces enfants sont très petits, ils sont âgés en effet de 1 à 5 ans. Ce sont des militaires français qui sont allés les chercher, notamment dans le camp d'Al-Hol au nord-est de la Syrie, et ce sont les soldats qui les ont ramenés dans un avion militaire avec des médecins à bord. Les enfants qui ont atterri en tout début d'après-midi à Villacoublay vont maintenant passer des examens de santé approfondis, sachant qu'en effet, un de ces enfants au moins est sérieusement blessé au visage par des éclats d'obus. Nous sommes allés chercher ces enfants car ils étaient dans une situation très vulnérable, sans protection immédiate, sans parents, explique-t-on au Quai d'Orsay. Ces retours de 5 enfants sont l'exemple du cas par cas dont parle Emmanuel Macron depuis 18 mois, confirme un diplomate qui ajoute que d'autres retours d'enfants de djihadistes sont envisageables depuis la Syrie ou l'Irak, mais sans les parents. Et plusieurs avocats français et familles restent mobilisés pour le retour de tous les enfants, sans discrimination, sachant que plusieurs dizaines d'enfants sont encore dans les camps, dans des conditions sanitaires très très difficiles.
Merci Sophie Parmentier. Justement, on va entendre maintenant une de ses avocates, Marie Dosé, avocate pénaliste au barreau de Paris. Elle défend plusieurs femmes détenues en Syrie. Pour elle, cette première décision des autorités françaises ouvre logiquement la voie au retour des autres enfants de djihadistes.
Ça doit le permettre. On ne peut pas faire de discrimination entre les orphelins et ceux qui ont encore leur mère. On ne peut pas dire, toi enfant français, tu es orphelin, donc on te sauve, mais toi enfant français, ta mère est encore en vie, donc on ne te sauve pas, on te laisse périr dans le camp Al-Hol et on te laisse exposer à un risque de mort. C'est impossible, c'est tout simplement impossible, c'est intenable. Humainement, juridiquement aussi, on violerait les conventions internationales dont nous sommes signataires si nous agissons ainsi. Ces enfants orphelins ont été rapatriés, il faut que tous les autres le soient. Vous imaginez bien qu'un enfant de 5 ans ne peut pas être sanctionné parce que sa mère est encore en vie. Ce serait complètement dingue. Ces rapatriements sont inéluctables. Ces enfants sont une centaine. Ils doivent tous être rapatriés. Et puis vous savez ce que ça prouve surtout? C'est qu'on peut rapatrier en 24 ou 48 heures. Il y a encore 48 heures, le ministre de l'Intérieur nous indiquait qu'il n'y aurait pas de rapatriement et qu'aucun rapatriement d'enfants n'était envisagé. Finalement, 5 enfants sont rapatriés en 48 heures. Donc tout cela est possible et il y a urgence à ce que cela se fasse vite pour les 100 autres enfants.
Des propos recueillis par Adrien Toffolet pour France Culture. Aux Pays-Bas, tout à l'heure, la police a annoncé l'arrestation mardi de 2 personnes suspectées d'avoir un lien avec les commandos terroristes qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015 à Paris. Les 2 suspects âgés de 29 et 31 ans sont soupçonnés d'avoir été impliqués d'une manière ou d'une autre dans la fourniture des armes aux meurtriers. En Nouvelle-Zélande, ce matin, les revendications du tireur étaient radicalement opposées, mais la folie meurtrière était la même. Le pays est sous le choc des fusillades qui se sont produites dans deux mosquées de la ville de Christchurch et qui ont fait 49 morts et de nombreux blessés. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Benoît.
À travers ses premières déclarations, à travers son parcours politique, ses voyages, ses écrits et notamment le manifeste qu'il dit avoir rédigé, on commence à se faire une idée relativement précise des motivations du principal suspect de cette tuerie, un Australien âgé de 28 ans.
Oui, 73 pages et un titre glaçant, Le Grand Remplacement, référence à la théorie de l'écrivain français Renaud Camus sur la disparition des peuples européens soi-disant remplacés par les immigrés. Thèse très populaire dans les milieux d'extrême droite, thèse reprise par cet homme qui dit s'appeler Brenton Tarrant, se décrit comme un homme blanc, ordinaire, issu de la classe ouvrière et revendique par anticipation une attaque anti-immigration. Son modèle, le chevalier justicier Breivik, cet extrémiste norvégien qui a tué il y a 8 ans 77 personnes en faisant exploser une bombe à Oslo, puis en tirant sur des jeunes progressistes à Utøya. Breivik qui a lui aussi diffusé un manifeste de plus de 1500 pages appelant à suivre son exemple. Un modèle donc et une expérience dans une France prétendument envahie. Pour justifier son geste préparé pendant 2 ans, le tueur de Christchurch évoque une invasion de la France par les non-blancs qu'il aurait constaté lors d'un voyage au printemps 2017. Dans chaque ville française, écrit-il, les envahisseurs sont là. Moment clé de sa radicalisation, la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle et la mort d'une enfant de 11 ans dans une attaque au camion bélier en Suède la même année.
Alors Louise, personne ne s'attendait à une action de ce genre en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on a sur ce point aussi, sur le choix des cibles, de premières explications?
Alors explication glaçante, là aussi, cibler la Nouvelle-Zélande lui permet, je cite, de démontrer que les envahisseurs sont sur toutes nos terres, même les plus éloignées. Éloignées de la violence, en tout cas, c'était l'image de cet archipel isolé d'Océanie, petit pays de 5 millions d'habitants, réputé comme l'un des plus sûrs au monde. 46 000 néo-zélandais sont de confession musulmane, soit 1% de la population, qui cohabite sans problème avec les autres communautés. Nous avons été attaqués parce que nous représentons la diversité, a d'ailleurs déclaré la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern après la tuerie. Nous sommes une nation fière d'avoir plus de 200 origines ethniques et 160 langues.
Merci Louise Baudet. Et si le tireur présumé dit avoir été inspiré, vous l'avez dit, notamment par la situation en France, la France, elle, par la voix du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, affirme que l'homme n'était pas connu des services français. En Algérie, un nouveau vendredi de contestation et de colère à l'égard du régime en place. De nombreuses manifestations très suivies ont été organisées, toujours sans violence, à travers tout le pays, pour demander une transition et le départ d'Abdelaziz Bouteflika. C'était la première grande mobilisation depuis l'annonce du report sine die de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 18 avril et surtout depuis l'annonce du prolongement du mandat de l'encore président. Sur place à Alger, Waïba Filali, vous avez rencontré des manifestants très motivés.
J'ai par exemple vu un groupe de jeunes chanter devant un immeuble en s'adressant à une grand-mère sous son balcon. J'ai vu des groupes en train de jouer de la derbouka, des femmes faire des you-you, des dizaines de milliers de manifestants chantent le sourire aux lèvres. Il faut s'intéresser un peu aux paroles pour comprendre que finalement ce n'est qu'un sourire de façade. Voleur, vous avez pillé le pays, crient les manifestants à l'adresse d'Abdelaziz Bouteflika et son gouvernement. Dégage, j'ai beaucoup entendu ce mot. Et puis d'autres paroles résonnent alors que cette manifestation est en train de toucher doucement à sa fin. Ces paroles-là, c'est celle de la promesse d'une autre manifestation à venir. Manesh Hepsin, Kul Jumaa Khadjin, on ne va pas s'arrêter. Chaque vendredi, on sortira.
Voilà, correspondance à Alger pour France Culture de Waïba Filali. Au Nigeria, le bilan est monté aujourd'hui à 20 morts après l'effondrement avant-hier d'un immeuble abritant notamment une école maternelle et primaire dans la capitale Lagos. Sur place, les opérations de secours ont désormais pris fin. Franco sera bien déterré et sa dépouille déplacée. En Espagne, le feuilleton sur l'avenir des restes de l'ancien dictateur occupe l'actualité politique depuis de nombreuses semaines. Le souhait du gouvernement de voir Franco quitter le mausolée construit à sa gloire a longtemps divisé le pays. Mais aujourd'hui, à 6 semaines des prochaines élections législatives, une solution semble avoir été trouvée. La vice-présidente du gouvernement Sanchez, Carmen Calvo, a annoncé aujourd'hui à la sortie du Conseil des ministres la date de la possible exhumation. Elle devrait avoir lieu le 10 juin au matin, sauf si la famille de Franco arrive à trouver un recours. Le gouvernement socialiste souhaite que les restes du dictateur soient inhumés dans le cimetière de la commune du Prado, au nord-ouest de Madrid. Marie-Hélène Ballestero.
Le feuilleton continue et le gouvernement Sanchez franchit un nouveau pas. Les restes de Franco iront au panthéon de Mingo Rubio El Pardo, qui appartient à l'État, a annoncé aujourd'hui la vice-présidente de l'exécutif, Carmen Calvo. Dans le cimetière de Mingo Rubio, au nord-ouest de la capitale, repose déjà l'épouse du dictateur. À quelques kilomètres seulement se trouve le palais d'El Pardo, qui était la résidence officielle de Franco jusqu'à sa mort en 1975. Rappelons que la famille du dictateur avait proposé une inhumation dans la cathédrale de l'Almudena en plein cœur de Madrid. Une proposition rejetée depuis par le gouvernement socialiste. Le calendrier donc se précise, mais la décision reste encore susceptible d'un recours en justice. L'affaire a été portée devant la Cour suprême par les descendants de Franco et les moines bénédictins du monastère del Valle de los Caídos, la vallée de ceux qui sont tombés, où se trouve actuellement le mausolée du dictateur. Pour l'instant, la Cour suprême ne s'est toujours pas prononcée. Par ailleurs, des élections législatives anticipées doivent avoir lieu le 28 avril en Espagne, ce qui veut dire que le 10 juin, un nouvel exécutif est susceptible d'avoir pris le relais au palais de la Moncloa. Malgré cela, le gouvernement Sanchez est confiant. La vice-présidente Carmen Calvo a déclaré aujourd'hui que le gouvernement qui sera en place à ce moment-là devra appliquer cette décision.
Marie-Hélène Balestero. Une mobilisation de grande ampleur aujourd'hui de la jeunesse pour le climat et plus largement pour la défense de l'environnement dans de nombreuses villes de France. Étudiants, lycéens et collégiens ont répondu à l'appel mondial de mobilisation lancé notamment par Greta Thunberg. Bonsoir Véronique Roberotte.
Bonsoir.
Quelques chiffres de la mobilisation relativement impressionnante. 168 000 manifestants d'après ses propres manifestants en France. Ils étaient 12 000 à Lyon selon la préfecture du Rhône, 10 000 à Nantes, plus de 6 000 à Lille et entre 30 et 40 000 à Paris, où vous vous trouviez, Véronique.
Déjà un peu d'ambiance. Vous l'avez dit, grosse mobilisation des classes entières, hein, parfois qui ont séché les cours à Paris et en proche banlieue, forêt de pancartes, les calottes sont cuites aux arbres citoyens, moins de banques, plus de banquises, etc. etc. Mais aussi beaucoup d'angoisse parmi cette jeunesse qui a besoin de se serrer les coudes face à un avenir qu'elle imagine très sombre.
On va dire que ces marches comme ça, ça nous permet de regagner un peu espoir en voyant qu'il y a des gens qui se mobilisent à côté. Et l'avenir est ultra noir comme le pétrole qui coule des soutes, en fait, juste quelle jolie métaphore. Mais si on ne se rassemble pas, en fait, c'est notre vie. En fait. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de futur, c'est un peu inconcevable.
Étienne, 12 ans, a eu besoin de la bénédiction de ses parents pour défiler. Lui aussi a besoin de se remonter le moral.
En fait, j'étais souvent stressée parce que j'avais un prof d'histoire géo assez dans la cause et qui parlait beaucoup de l'écologie et aussi par les médias avec Trump et l'extrême droite au Brésil, des choses comme ça. Donc j'étais inquiet. Et du coup, là, maintenant que je sais qu'il y a des solutions comme la manifestation, mais, du coup, j'y vais, je manifeste.
T'es rassurée un peu ?
Je manifeste.
Tu dis que ça va marcher ?
Oui, j'espère, j'espère.
Grosse colère pour Lola, 14 ans. L'invitation du ministre de l'Éducation à débattre aujourd'hui en classe, pile au moment de la manifestation des jeunes, Lola est vraiment très remontée.
Ces débats-là ne sont organisés comme par hasard que le jour où il y a une manifestation, alors que dans toute ma scolarité, je n'ai jamais été éduquée là-dessus. On n'a jamais parlé de ces conséquences-là de manière concrète. C'était seulement des gestes pour nous. Essayer de nous dire de devenir un bon citoyen, de jeter ses papiers, d'éteindre la lumière. Mais on n'a jamais parlé des déchets, des tonnes d'eau qui sont utilisées par les grandes entreprises, qui sont ensuite rejetées. Des personnes qui sont exploitées, des personnes qu'on refuse, qui sont des réfugiés climatiques par exemple. Ça, dommage, c'est donc je viens ici pour peut-être avoir un impact et pour peut-être faire comprendre aux écoles et au gouvernement qu'il faut faire quelque chose et que la génération qui est ici, éduquée ou non, a envie de faire bouger les choses.
Alors beaucoup de primo-manifestants aujourd'hui parmi ces jeunes, mais ils ont promis de manifester peut-être maintenant tous les vendredis.
Voilà, et puis demain aussi, samedi, de nouveau, les enjeux climatiques seront dans la rue à l'occasion de la marche du siècle. Un cortège dans lequel devrait d'ailleurs se retrouver également Gilets jaunes et organisations syndicales. On y reviendra évidemment dans nos éditions ce week-end. L'environnement, on le sait, était un des thèmes du grand débat national qui touche à sa fin. C'est aujourd'hui le 15 mars, officiellement le dernier jour de consultation. Place désormais aux conférences citoyennes régionales qui vont permettre une première synthèse des participations partout en France. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Vous êtes en direct d'Orléans, au centre de conférences pour France Culture, Orléans, où la conférence débute après un temps de mise en place et d'explication aux participants qui, on le sait, ont été tirés au sort.
Merci beaucoup d'avoir répondu à cet appel de la mission du Grand Débat National. Je me présente,
Je suis Erwan, je suis là avec...
Les 71 participants, c'est vrai, qui ont été tirés au sort, les participants de la région Centre-Val de Loire sont désormais installés, ils sont à peu près 8 par table en train de faire un diagnostic libre, ce qui va moins bien sur les 4 thèmes du grand débat, un facilitateur par table. Et c'est un petit peu l'aventure pour Hélène, une retraitée qui habite Morey, juste à côté de Vendôme.
J'étais contente à l'idée de participer parce que ça m'a fait tout drôle d'avoir été tirée au sort, je m'y attendais pas. C'est excitant et puis intéressant quoi.
Guillaume, lui, est un urbain pur jus, il a 22 ans et réside dans le centre-ville d'Orléans. Il fait partie des quelques jeunes présents, prévenus il y a une semaine, il n'a pas hésité.
Moi, mes préoccupations, c'est surtout la transition écologique, très honnêtement, voilà. Moi, c'est surtout pour ce sujet que je suis présent. On a beaucoup d'efforts à faire sur ce sujet, dans cette voie-là, et j'espère qu'on pourra trouver quelques solutions aujourd'hui.
Des citoyens pré-filtrés sociologiquement, puis contactés par téléphone, ce qui a demandé vraiment, Benoît, des milliers d'appels pour trouver les volontaires, mais aussi les motiver, explique Nadia Beuglin, l'une des responsables de la mission du Grand Débat.
Ça fait globalement 15 jours que... On appelle les gens pour savoir s'ils sont bien d'accord, où est-ce qu'ils habitent, comment on peut les aider pour venir, parce que autant on n'a pas payé les personnes, autant il n'y a pas de raison qu'ils y soient de leur poche, et voilà.
Une conférence qui est également observée par un consortium de chercheurs. Ils sont une trentaine à suivre ces 21 conférences citoyennes régionales partout en France. Un projet chapeauté par Sciences Po et en ce moment même à Orléans. C'est une Française doctorante aux États-Unis à l'université de Yale qui prend très sérieusement des notes.
Merci Anne Fauquemberg en direct d'Orléans avec Fabien Gosset pour les moyens techniques. Il est 18h16 sur France Culture. La suite du journal avec, comme chaque vendredi, l'enquête du service investigation de Radio France sur la fraude fiscale qui est revenue au premier plan de l'actualité ces derniers temps, notamment à travers ce grand débat national. Bonsoir Abdelhakel Idrissi.
Bonsoir.
Vous avez enquêté sur cette fraude fiscale qui, on va l'entendre, ne concerne plus seulement les grandes fortunes.
Oui, et d'ailleurs, il suffit de taper « société offshore » sur Internet pour tomber sur des dizaines de sites qui proposent des montages légaux, mais en mettant quand même en avant l'anonymat et la discrétion. Pour vérifier, j'ai appelé un de ces sites. Je me suis fait passer pour un consultant à la recherche d'un montage offshore pour payer moins d'impôts. Et voici ce qu'on me répond.
Vous êtes résident français.
Bien sûr.
Vous réalisez la prestation depuis la France. Si vos clients ils sont en France et vous facturez via une société étrangère, vous n'êtes pas dans le cas de l'optimisation fiscale, monsieur. Vous êtes dans le cas de la fraude fiscale, clairement.
Donc la réponse est limpide. Je ne peux pas facturer mes clients français avec une société offshore. C'est illégal. Sauf que, quelques secondes plus tard, sans que je demande quoi que ce soit, on propose finalement une solution à mon problème.
Si vous avez une société anglaise, vous facturez vos clients avec une société anglaise. Ça passe très bien, il n'y a aucun problème. 90% des consultants qui sont dans votre cas, qui font appel à nous, décident de le faire effectivement de cette manière-là. Maintenant, si vous insistez, vous voulez la société, moi je vous fais la société sans aucun problème avec le compte bancaire.
Le kit offshore est facturé 2000 euros, mais ça ne s'arrête pas là. On me donne même des conseils pour justifier mon train de vie et ne pas éveiller les soupçons du fisc français. À peine mon téléphone raccroché, je reçois un devis et un formulaire à remplir pour devenir client.
Alors dit comme ça, Abdelhak, ça paraît très facile et sans conséquences, mais la réalité sans doute est très différente.
Effectivement, car finalement, derrière ces sites, il y a souvent des escroqueries et ce n'est pas sans risque. Et ça, Didier Delmer, il le voit tous les jours. Cet expatrié à Londres propose des schémas d'optimisation fiscale en toute légalité, mais certains de ses concurrents ont moins de scrupules.
J'ai vu passer des dossiers entre les mains où il y avait des vies et des familles anéanties, des divorces, des pertes de maison, des gens à la rue. Je connais une famille dont le père s'est suicidé avec tout ça. Les enfants, ils avaient moins de 10 ans. Voilà. C'est affreux quoi, c'est affreux.
Selon nos informations, le parquet national financier a ouvert 3 enquêtes concernant des sites qui organisent la fraude. Des enquêtes compliquées parce que les sites en question sont gérés depuis l'étranger, comme l'explique Thomas de Ricolfi, le patron de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales.
On a affaire face à des espèces de toiles d'araignée, hein, on compare ça au web, hein, avec des gros serveurs, des petits serveurs, et puis finalement des utilisateurs qui sont derrière leurs écrans d'ordinateur. Et c'est vraiment des réseaux auxquels on essaye de s'attaquer. De temps en temps, certains tombent, mais leur clientèle ou leurs modes opératoires sont repris par d'autres qui trouvent de nouvelles parades pour échapper aux poursuites.
Alors, donc c'est difficile pour les enquêteurs de débusquer tous les fraudeurs, on l'a bien compris, Abdelhak, mais ceux qui échappent à la justice ne sont pas tranquilles pour autant.
C'est le cas de Maxime, qui a accepté de me parler à condition de modifier sa voix. Il avait 200 000 euros sur un compte caché en Lettonie. La société qui s'est occupée de son montage a été condamnée par la justice. lui est passé entre les gouttes, mais il n'est pas vraiment serein.
C'est une épée de Damoclès qu'on a, et à chaque titre sur des évasions fiscales ou ce genre de choses, ça rappelle le danger, l'exposition qu'on a, quoi. Alors que, avec le recul, c'est une connerie. Ouais.
Voilà, merci Abdellah Khalidrissi. Votre enquête avec le Consortium international des journalistes d'investigation pour le compte du service investigation de Radio France est à retrouver sur franceculture.fr. Un temps plus calme et plus ensoleillé demain samedi sur la France. Quelques pluies sont toujours attendues sur le nord en début de journée, mais comme partout, le temps finira par s'améliorer. Température minimale au lever du jour, comprise entre 0 et 10 degrés, maximale en hausse, entre 12 et 18 sur la moitié nord, jusqu'à 25 degrés au pied des Pyrénées et le long de la Méditerranée.